Au sujet du fameux OCCI, oui, dont on parlait tantôt, il y a quelqu'un qui nous dit « La moyenne de rotation est aux 3 mois. Multiplie par 4 ton 80 heures de traitement qui sont perdues à remplir de la paperasse. »
Donc, 8 semaines par année, temps plein, par
donc,
infirmière.
Donc, c'est 320. C'est 320 heures.
C'est ça.
Par infirmière, par préposé qu'on perd comme ça. Ajoute à ça 3 ou 4 semaines de vacances. Ça fait 7 à 8 semaines non dispo pour les soins. Il faut vraiment qu'on continue. Il y a quelqu'un qui dit que le docteur Gaillardès fait beaucoup plus de soins directs aux patients que de gestion. On peut pas la considérer comme un cadre. C'est pour ça qu'elle a probablement une bonne vision de ce qui se passe sur le terrain.
C'est elle qui devrait le faire, le formulaire, là. C'est le ça. Fameux OCCI, là, c'est elle qui devrait le faire.
Et il y a Annie qui nous dit, le soin peut débuter avant qu'on remplisse le test, mais ça doit être fait rapidement.
Oui, mais c'est ça. Mais de toute façon, avant ou après, le problème demeure que ça stresse les patients, puis ça prend l'équivalent de 8 semaines à temps plein par année par infirmière ou ergo ou travailleur social qui fait des soins à domicile. C'est ça pareil.
C'est ça. Il y a quelqu'un, on parlait tantôt d'anxiété, de stress, etc. Oui. Il y a quelqu'un qui doit en subir tout un. Je sais pas s'il en est conscient, je sais pas comment il gère ça, mais je regarde la place qu'on a fait à Félix Auger Aliassim dans la publicité de la Coupe Rogers. Hier, Raphaël Nadal et Zverev, deux des étoiles qui sont là, ont donné
têtes de série, je pense.
Ouais, ont donné des conférences de presse, oui, et on a retenu deux qui roulent en boucle dans les médias que ce qu'ils disaient de Félix Auger Aliassim, que ça allait être un grand, que puis dans les publicités à TVA Sport, tu vois Félix Auger Aliassim.
C'est ça. Les bulletins de Sport 30, t'avais les deux vedettes du tennis là, qui sont au tournoi. Puis, ils parlent juste de Félix Auger-Aliassime. Ils parlent pas d'eux autres, leur tournoi, comment ça va. Les deux, ils parlent de... Oh, il est très bon, effectivement. Il y a de la pression pas mal.
Puis, si je me rappelle
c'est
bien,
fou,
à son dernier tournoi, ça a pas très bien été, Félix Auger-Aliassime. Si bien que je me demande comment un petit gars de 18 ans, parce que ça reste un petit gars de 18 ans, là...
Je pense que c'est sa fête la semaine prochaine, en plus.
Oublie pas que le cerveau des garçons finit de se former aux alentours de 25 ans, là.
Ouais, mais ça vient juste de finir.
Puis encore!
Et encore!
Comment est-ce qu'ils font pour supporter cette pression-là et arriver à transformer ça en quelque chose de productif? On a au téléphone Sylvain Guimond, qui est docteur en psychologie sportive. Bonjour, docteur Guimond.
Bonjour, ça va bien?
Ça va bien, oui. Comment vous géreriez ça si vous étiez le conseiller de Félix Auger-Aliassim?
De continuer comme il a commencé jusqu'à présent. En fait, s'il y a autant de succès, c'est que, un, il y a beaucoup de talent, mais deux, c'est qu'il y a aussi une bonne tête sur les épaules. Et probablement qu'en ce moment, ce qu'ils font, c'est de gérer le moment présent. Il faut qu'il se ramène à ce qu'il fait de mieux, et c'est s'amuser en jouant au tennis. Même s'il joue devant plus de gens, plus il y a de pression, mais pour certains athlètes, cette pression-là devient un plaisir. C'est pas quelque chose qui est épeurant si on n'a pas d'anxiété, d'anticipation. Si on est capable de tourner cette anxiété-là ou ce stress-là, ce qu'on peut l'appeler le moment d'activation, là, lorsqu'on ça va nous aider à aller dans notre zone, ça permet à l'athlète de mieux performer. Au contraire, ça ne l'écrase pas, ça va l'aider même encore à être encore meilleur.
Mais d'être devant ses partisans, ça rajoute une charge supplémentaire?
Ça ajoute une charge supplémentaire, mais c'est aussi encore plus plaisant. Si les gens me posent toujours la question, j'ai été avec le Canadien pendant 3 ans, puis les questions qui me revenaient le plus souvent, ça doit être beaucoup de pression de jouer à Montréal. Et moi, je dis c'est le contraire, c'est beaucoup plus plaisant de jouer à Montréal. On joue devant des gens qui connaissent ça, des gens qui nous aiment, des gens qui sont déjà gagnés d'avance. Pour lui, là, les gens, la majorité des gens qui vont être là, tout le monde qui vont le voir, ils veulent juste son succès. Donc ça, c'est un élément stressant, mais c'est un élément surtout motivant. C'est un élément qui peut m'amener à avoir de l'énergie puis à vouloir encore mieux performer. On va sentir ça derrière lui, cet amour-là des gens qui sont là pour lui.
Je me souviens d'avoir vu un de mes amis qui joue au tennis beaucoup, du haut calibre, arriver chez lui à un moment donné après avoir perdu en finale. Il y avait une médaille d'argent dans le cou. Puis il l'a jeté dans la poubelle parce qu'il était fâché d'avoir perdu. Puis là, moi je joue au soccer d'un sport d'équipe, là. Tu sais, j'avais pas de pression. Lui, il se mettait une pression énorme. Est-ce que le tennis, c'est un des sports qui peut être le plus stressant pour des joueurs?
Ben, on est vraiment seul. Il y a personne qui va rattraper notre erreur. On est seul vraiment sur le terrain. Mais en même temps, lorsque ces gens-là ont décidé de faire ce sport-là, c'est parce qu'ils aiment ça. Ils aiment cette pression-là. Si on n'aime pas la pression qu'il nous a mis en faisant de la compétition, on n'est pas à bonne place. Puis probablement que lui, il carbure à ça. Puis c'est correct, parce que lorsque je l'entends en entrevue, il est tellement solide, il est tellement bien, il est serein, il est très confiant intérieurement, mais il est vraiment loin d'être arrogant.
Ouais.
Donc, c'est vraiment très, très bien. Dans son cas, à lui, là, je prédis que ça va être une grande vedette parce qu'il y a la tête pour gérer ça.
Mais dans le traitement médiatique qui est fait, trouvez-vous qu'on met trop de pression? Autant que ce soit Tennis Canada, les autres joueurs, les médias, la foule. Est-ce qu'on met trop de pression sur ce jeune homme-là?
Non, ben je pense pas. Moi, je pense qu'il est rendu à ce niveau-là, puis ça vient avec le travail qu'ils font. Ces gens-là, en fait, ils l'entendent, ils le voient, ils sont conscients de ça, mais en même temps, c'est une belle énergie qui va lui permettre de bien performer. Lorsqu'on met une pression, ça vient seulement que de ma tête à moi, de ses pensées à lui, et ça, vous allez les entendre. Quand on entend souvent les athlètes de haut niveau parler, ils vont dire, ben, je suis content de moi, j'ai bien performé, c'était correct, j'ai fait mon maximum. Ils vont pas parler du résultat, ils vont parler comment ils se sont sentis. Donc, si je reviens à votre ami qui a gagné une médaille d'argent puis qui a jeté sa médaille d'argent, c'est triste. Parce que au lieu d'apprécier le moment d'avoir bien joué puis d'être deuxième dans la vie, ça veut pas dire que t'es le premier perdant. Au contraire, c'est notre société qui fait en sorte que on porte que sur le résultat en tant que tel. Mais si lui, il retourne ça d'une façon différente, ben ça va lui aider éventuellement à performer encore mieux. Mais dans la performance, dans tous les cas, ce n'est que le résultat d'une attitude positive qui va m'amener à mieux performer. Si au contraire, je le prends comme de la pression, c'est dans ma tête que ça se passe nulle part ailleurs. Et c'est là que eux, on va leur donner des outils qu'on appelle du recadrage cognitif pour changer leur mode de fonctionnement, de se parler à eux-mêmes. Ça s'appelle le soliloque interne. Cette conversation interne-là, on l'a tous chez nous. Tout le monde en a ça. Mais si on est capable de changer en quelque chose de positif, si on devient son meilleur ami, son meilleur partenaire, je dis toujours aux gens, quand tu joues dans un sport d'équipe en ce moment, puis qu'il y a un de tes partenaires qui fait une erreur, qu'est-ce que tu vas lui dire? C'est pas grave, tu vas te reprendre, je sais, j'ai confiance en toi. Pourquoi tu le fais pas quand c'est pour toi? Pourquoi on porte pas ce même langage-là avec soi-même? Pourquoi on n'a pas ce même discours-là à s'encourager soi-même? Et c'est ça qu'on apprend à ces athlètes de haut niveau-là.
Vous leur apprenez à se faire à eux-mêmes des pep talks.
Exactement, à se dire, écoute, si j'étais mon meilleur ami en ce moment, qu'est-ce que je me dirais à moi-même? Mais c'est la même chose pour vous autres dans les médias, c'est la même chose pour les gens qui travaillent, la même chose pour quelqu'un qui est monoparental puis qui a un travail qui vient de le perdre. Lui, s'il y a de la pression, je pense, ou la dame aussi qui est seule à élever ses enfants. Moi, quand je vois des sports professionnels puis que je travaille avec ces gens-là à journée longue, je leur dis, vous êtes chanceux, vous êtes heureux, vous avez fait de votre chance. Mais en même temps, vous êtes choyé de notre société. Vous êtes à un endroit où vous avez rêvé de l'être. La première chose qu'il doit se dire à l'âge de 18 ou 19 ans qu'il a en ce moment, c'est quoi son rêve quand il avait 10 ans? C'est de jouer avec les meilleurs au monde? Mais il est là en ce moment. Fait que la première chose, c'est d'en jouir. De faire en sorte qu'il soit conscient et d'avoir de la gratitude d'être rendu où il est par rapport à lui-même et par rapport à tous ceux qui l'ont emmené jusque-là. Les coachs qu'il y a eu, les parents qui l'ont emmené à chacune des pratiques. C'est ça qu'il faut qu'il revoie dans sa tête. Et ça va l'aider à apprécier le moment présent et à profiter pleinement de sa carrière et des retombées qu'il a, dû à quoi? À la force qu'il a mis dans son sport, mais aussi à avoir resté une bonne tête sur les épaules.
Le public en attend beaucoup d'Ogé Aliassime. On attend la grande vedette de tennis depuis longtemps. On a cru que c'était Raonic, il a été ralenti par les blessures. On a cru que c'était Eugénie Bouchard. Ça a comme
elle
pas
était ralentie
bien...
par Instagram.
Je sais pas pourquoi elle a été ralentie. On a l'impression que quand ils arrivent à un certain très haut niveau, là, être dixième au monde, c'est quand même pas si mal. Là.
Ben oui, c'est
bon. Il y a comme un effondrement qui se fait.
Pour certains, oui, il y a un effondrement. Pour d'autres, ben, si c'était facile, tout le monde finirait premier. Donc, plus on monte et plus la compétition devient féroce, plus c'est difficile et plus on se rend compte que c'est dur d'être les meilleurs au monde et de rester là longtemps. Mais dans le tennis, ce qui est assez surprenant, c'est que les têtes d'affiche, on les a depuis assez longtemps quand même. Et là, qu'il y a des jeunes qui arrivent, c'est rafraîchissant. Et on ne sait pas combien de temps ils vont durer par la suite. Tout ça, ça dépend de l'attitude puis du plaisir qu'ils ont à jouer. Et les plus grands, mais c'est les gens qui en profitent pleinement. Puis lorsqu'ils font ça, ben ils vont et ça transforme cette énergie-là. C'est ici à McGill qu'il y a un monsieur qui s'appelle Anselier qui a parlé du stress en premier. Dans les années 40 ou 50 environ.
Anselier qui vivait à Montréal, si je ne me trompe pas.
Exactement. Et il a dit que le stress, c'était pas quelque chose qui était ni positif ni négatif. Ça dépend comment on l'entrevoit. Et ça, c'est, on s'appelle le eustress quand c'est positif, puis distress quand c'est négatif. Dans leur cas à eux, c'est eux qui doivent transformer cette énergie-là de stress à ce que ce soit bien. Je me souviens une fois avec Ginette Renaud, elle faisait un concours de, elle jugeait un concours de gens, de chant.
Oui.
Elle m'a dit, Sylvain, veux-tu venir avec moi? Je m'en vais, j'ai un concours de chant, veux-tu venir? J'ai dit, vas-y avec toi. Je vais avec Ginette, qui est une grande amie depuis 30 ans. Et là, on arrive là-bas, puis les jeunes filles, puis les jeunes garçons qui chantent devant elle disent, oh, Madame Renaud, j'étais tellement stressée, j'avais tellement le trac de chanter devant vous. Puis à un moment donné, il y a une jeune participante, un petit peu arrogante, qui dit, oh, moi, j'étais pas nerveuse du tout, j'avais pas le trac. Elle dit, j'ai chanté, puis j'étais très bien. Ginette a dit, fais-toi-en pas, ma petite fille, le trac, ça vient avec le talent.
Oh, c'est chiant, ça!
Ouch!
Ça fait mal, hein?
Ça fait mal.
Mais c'est un peu ça, puis vous allez pas les entendre dire ces choses-là. Puis, récemment, là, je suis content pour la victoire de Jean-Pascal, parce que, en fait, il a appris de sa dernière, de ses derniers combats. Et là, il a appris que, en se centrant sur lui, en s'occupant de lui-même, ben il a cru ouais. en lui, puis il a remonté à 36 ans, devenu champion. Donc,
au lieu de jouer les grandes gueules arrogantes, exact. Il s'est concentré sur le bonheur qu'il avait à boxer.
Exactement. Et il a cru en lui-même. Il a changé sa façon de faire qui n'avait pas fonctionné aux dernières fois. Puis là, il s'est vraiment concentré à dire « Je vais être vraiment prêt. » Il était vraiment prêt. Mais c'est ça un peu. Pour lui, c'est la même chose qu'il doit vivre ce week-end-ci, puis j'espère qu'il va en profiter, j'espère qu'il va goûter chacun des moments, puis j'espère qu'il va aller le plus loin possible. Et si c'est pas le cas, c'est pas grave. Il y a tellement d'autres années pour se reprendre. Le pire échec pour n'importe quel athlète, c'est de faire du sport de haut niveau, puis lorsqu'ils arrêtent, ils accrochent leur patin, ou ils accrochent leur gant, ils accrochent, et ils n'en font plus jamais. C'est l'esprit de garder cet amour-là, cette passion-là, aussi longtemps qu'on veut en faire et qu'on ne veut pas s'arrêter.
Et vous associez systématiquement la réussite avec le plaisir de jouer.
Vraiment. Vraiment. Puis si vous écoutez tous les plus grands champions, ils vont vous le dire. Vous allez les écouter, vous allez voir comment ils vont vous parler d'avoir eu du plaisir, comment ils se sont sentis bien sur la piste. Regardez les plus grands, ceux qui gagnent vraiment très souvent, ils vont vous dire comment ils étaient bien. Donc, cet état d'esprit-là, c'est la même chose pour vous. Lorsque vous rentrez au travail, il y a des choses qui vous tracassent à la maison. Il y a des gens qui rentrent, c'est difficile, mais quand vous arrivez là, puis vous commencez à parler aux gens, puis vous sentez que vous êtes bien, vous tombez dans un autre état d'esprit qui vous permet de mieux performer. On performe mieux quand on est heureux.
Ouais.
Donc, lui, en ce moment, là, sa vie est belle. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'il se concentre. De dire, OK, je vais faire le maximum que je peux. Je ne peux pas faire plus que ça. Il y en a d'autres qui vont faire la même chose. Il n'est pas le seul à vouloir gagner.
Ouais.
Donc, c'est normal. Plus il va affronter des gens qui sont d'expérience, plus ça va être difficile. Puis plus il va gagner en expérience, plus il va prendre confiance. Plus il va prendre confiance, mais plus ça va grandir. Puis s'il reste vraiment ici, bien connecté, avec le même plaisir de jouer qu'au moment où il était jeune, il va continuer à réussir.
Son dernier match, c'était contre Cilic. Il a été battu 6-3, 6-4. Est-ce que ça a un impact, vous pensez, sur la façon dont il s'amène à ce tournoi-là? Ou ils sont vraiment capables, eux autres, de faire « Bon, t'es hier! »
Non. Et en fait, ce qu'il faut qu'il fasse, c'est regarder ce qu'il a commis, qu'est-ce qu'il a fait, comment, où il s'est pu... l'échec fait partie de la victoire. Chacun des échecs qu'on a, lorsqu'on apprend, on va retourner puis on va mieux agir. Lorsqu'on a un match au hockey, vous regarderez, là, lorsqu'on perd, ben tout le monde se pose des questions. Qu'est-ce qu'on a fait de correct? Qu'est-ce qu'on a fait de pas correct? On apprend de ça. Quand on gagne, malheureusement, trop souvent, on tourne la page trop rapidement puis on se souvient pas ce qu'on a fait de correct par rapport à ce qu'on a fait dans la victoire.
Ouais.
Donc, les défaites, lorsqu'on est capable de faire une introspection puis de regarder ce qu'on a fait de bien, on est capable d'apprendre de ça, puis ça nous fait évoluer. Donc, l'échec n'est pas quelque chose qui est négatif, c'est quelque chose de positif. J'ai écrit un petit texte là-dessus. J'ai dit, pourquoi les gens ont si peur de l'échec? Parce qu'ils ont peur des défis. Et pourquoi ils ont peur des défis? Parce qu'ils ont peur de l'échec. La seule façon de réussir, c'est d'avoir des échecs. Plus je vais relever des défis, plus je vais avoir des échecs. C'est normal.
Ah ouais, Bill Gates avait dit, le succès est un très mauvais professeur.
Exactement. Oui, parce que lorsqu'on a du succès, on ne se questionne pas autant. On n'apprend pas autant que dans nos défaites.
Okay.
Donc, je dois apprendre de ça. Puis lui, il est en apprentissage. J'ai vraiment confiance que ce jeune garçon-là va aller très loin s'il continue à avoir une bonne tête sur ses épaules et à s'amuser.
Merci beaucoup.
Ça m'a fait plaisir.
Au revoir. Faut qu'on
à bientôt.
Merci. faut que nous aussi, on le laisse s'amuser, par exemple. Ouais. Qu'on mette la pression médiatique qu'il faut, là, mais...
Mais je trouve ça intéressant d'écouter le Doc Guimond parler. Ah, Sylvain Guimond, qui est docteur en psychologie du sport.
C'est passionnant, là, parce qu'il fait, la relation directe entre le succès et le plaisir.
Ouais.
Tu peux pas avoir du succès dans quelque chose que t'aimes pas.
Il va avoir une double distraction pour Félix Auger-Aliassime. Parce que là, il joue demain contre Vachek Pospisil, un Canadien.
Mm-hmm.
Donc déjà, il faut qu'il gagne contre... Puis il s'entraîne très régulièrement avec Vachek Pospisil. Donc il va falloir qu'il gagne contre lui. Et si Félix gagne, qu'est-ce qu'il affronte au deuxième tour? Miloš Raonic.
Oh oui?
Oui, Raonic a gagné ce midi contre Luca Pouille, le Français.
Mais ils ont 6-4, fait un espèce 6-4. De tirage où tous les Canadiens sont dans le même arbre?
C'est-à-dire Chapovalov est plus loin. Il va affronter Si Gang au premier tour contre Pierre-Hugues Herbert, le Français. Il va affronter Dominique Thiem, qui est deuxième tête de série, qui lui a un bail, là, ça fait que lui, okay, il est déjà rendu au deuxième tour, là. Mais donc Raonic, il a gagné ce midi. Puis donc, il va affronter soit Vachek Pospisil, soit Félix Auger-Aliassime au deuxième tour.
J'aime bien la phrase de résumé que nous envoie un auditeur. On ne perd jamais. Soit on gagne, soit on apprend.
Ouais, exact.
C'est bon. Il y en a un qui craint que les médias lui mettent ben trop de pression. C'est lui qui va se la mettre, hein?
C'est parce que c'est toute une histoire aussi que celle de Félix Auger-Aliassime. 18 ans, aussi performant. Tous les spécialistes ont des attentes. Fait que les médias aussi, ils rapportent ça, là, tu sais.
Oui. Puis tous les Québécois cherchent leur héros sportif depuis le Canadien s'est effondré à toute fin pratique.
C'est sévère, en tout cas.
Ben, ils sont effondrés.
Non, c'est juste...
Ils font même pas une série, là.
T'as piqué le partisan, moi. T'as pas tort.
Ils font même pas une série, là.
Sensibilité de partisan.
Ça fait des années qu'on se demande pas s'ils vont gagner la Coupe Stanley. On se demande s'ils vont faire les séries.
Ouais, c'est ça.
Ça, puis rien. C'est la même affaire, là. Depuis donc que le héros naturel du Canadien, du Québécois s'est effondré, il cherche un autre héros. Il y a eu Jacques Villeneuve un petit bout de temps.
Oui. Ben, Eugénie Bouchard, pendant un petit bout de temps...
On a failli y croire.
Elle était dans le top 10 mondial. Elle s'est pas rendue en finale de Wimbledon, à la fin de même. C'est pas rien, quand même.
Junior. Quand t'étais junior, je pense.
Finale senior.
Senior aussi.
Il me semble que oui. C'est quand même pas rien.
Junior,
là.
C'est ça.
Ah oui, c'est ça, le gagné junior. Mais tu sais, ça veut dire... C'est pas n'importe qui sera en finale de Wimbledon, là, tu sais.
Écoute, être parmi les 200 meilleurs au monde, là, c'est déjà pas mal.
C'est ça, mais quand t'es la prochaine révélation... Là, tu te dis, mais je peux pas juste être dans les 100 meilleurs, je peux pas juste être dans les 50 meilleurs, je peux pas. T'arrives dans le top 20, je suis dans le top 20, mais je peux pas juste dans le top 20, faut que je sois dans le top 10. Quand t'es dans le top 10, faut que tu sois dans le top 3.
Tous les joueurs qui font partie de la Ligue nationale de hockey sont parmi les 900 meilleurs au monde.
Ouais, c'est vrai.
Puis là, on blaste Eugénie qui est rendu 150e, c'est quelque chose de genre, là, au monde. C'est quand même pas mal d'être 150e au monde, excuse-moi, là, mais. Elle serait dans les premiers choix, dans les deux premiers choix des joueurs de hockey.
Eugénie Bouchard, qui va jouer contre Bianca Andreescu, d'ailleurs. Ça aussi, ça va être intéressant, deux Canadiennes qui s'affrontent.
Mais pourquoi ils ont mis les Canadiens contre les Canadiens?
C'est un tirage. C'est les tableaux, c'est des tirages au sort.
C'est la preuve que le hasard ne fait pas bien les choses. Bon.
Ouais.
Il est 13h45.